Jérémie chapitre 17, en qui nous confions-nous? En qui nous confions-nous? Jérémie chapitre 17. On va lire ce chapitre. S'y plonger. Jérémie 17. Pour ceux qui ont la même pagination, si vous avez besoin de Bible, n'hésitez pas, levez la main. C'est page 585, Jérémie 17. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts sur les collines élevées. Je livre au piège ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tous tes hauts lieux, à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, toi mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confus. Et que je ne sois point confus, qu'ils tremblent et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entrent et sortent les rois de Juda et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda et tout Juda. Et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ses portes, ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos armes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, n'en introduisez point par les portes de Jérusalem, ne sortez pas de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou. Pour ne point écouter, ne point recevoir d'instruction, si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous m'introduisez point de fardeau, si par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée, de la montagne et du midi, pour ramener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas, quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point être en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem, et il ne s'éteindra. On va prier. Père éternel, merci pour ta parole. Seigneur, tu as proclamé ces choses à Jérémie et au peuple d'Israël, au peuple de Juda, il y a si longtemps, il y a à peu près 2600 ans que tu as proclamé ces paroles, mais elles sont encore d'actualité parce que le cœur humain n'a pas changé, Seigneur Dieu. Seigneur, ton plan s'est développé depuis ce temps-là. Depuis, tu as envoyé Jésus pour être le sacrifice. Tu as proclamé, Seigneur Dieu, la liberté à quiconque était esclave de leurs péchés. Seigneur, ce peuple ne pouvait pas obéir, non seulement parce qu'ils te refusaient, mais aussi parce qu'ils étaient esclaves de leurs péchés. Ils avaient besoin d'un délivreur. Seigneur, aide-moi de bien proclamer droitement ta parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Donc, Jérémie commence ici, versets 1 et 2, Jérémie 17. Dieu annonce ici que le péché est gravé même sur leur cœur. Vous savez, il y a beaucoup de monuments dans le passé qui ont été gâchés avec le temps, mais il y a des monuments qui ont été gravés comme une pointe de diamant, avec une mèche de fer dans la roche, et on peut lire des inscriptions vieilles de 3000 ans. Parce que c'est gravé dans la roche. Et le cœur de l'homme est gravé par le péché. Le péché est gravé sur la table de leur cœur. Ça, c'est nos cœurs à nous. Le cœur humain n'a pas changé. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leur autel, à leur idole d'Astarté. Astarté, c'était comme une divinité de la fécondité. Alors, vous pouvez vous imaginer tout ce qu'il y avait avec. Ils aimaient bien cette idole parce qu'ils s'amusaient à se donner à leur convoitise, à leur perversion. Et Dieu dit qu'il y a une conséquence éternelle à cela. Il y a une conséquence. Pour eux, pour le moment, c'était l'exil. C'était d'être pris de leur pays. Ils allaient le perdre. Ça allait être saccagé. Jérusalem allait être détruite, toutes les villes allaient être détruites, ils allaient être pris pour être envoyés ailleurs. C'est une image justement de la destruction de nos vies et de la peine éternelle séparée de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que personne périsse, que tous se repentent, que tous viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Alors il leur dit, je livre au piège. Pourquoi? Car vous avez allumé le feu de ma colère. Dieu, il est patient. C'est nous qui allumons le feu de sa colère. Dieu, il est bon. Il ne désire pas garder sa colère à toujours, mais c'est nous qui l'allumons, sa colère. Et Dieu a pourvu un plan pour qu'il puisse y avoir un pompier qui vienne éteindre, pour ainsi dire, la colère de Dieu. Il l'a subi à sa place. Jésus-Christ l'a subi à notre place. Il a pris le feu de sa colère sur lui-même. La malédiction de se confier en l'homme, Dieu il est direct. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et que vous vous confiez dans un autre humain ou dans vous-même, vous vous confiez en l'homme. Chacun se fie sur ses propres impressions. Telle voie part et droite à un homme, mais sa fin, son issue, c'est la voie de la mort. Quand on se fie sur nous, nous ne connaissons pas tout. Nous, on connaît très peu. L'homme arrive en 2026. Et on pense que là, avec toute notre science, hein, toute notre éducation, l'homme connaît beaucoup. Dans 3 ans, on va écrire qu'on s'est trompé. aujourd'hui. Ça, c'est la science humaine. Hein. Elle est tellement orgueilleuse dans le moment. Mais on va dire, il y a 5 ans, on pensait telle chose, mais là, on est plus éduqué maintenant. Et là, on réalise que ce n'est pas exactement ça. Et sans avoir l'intelligence de dire, ouais, c'est vrai que si on est tellement orgueilleux pour le niveau d'éducation et le niveau de science qu'on a accru à travers les années, mais on sait que dans 5 ans, on va réaliser qu'il y a d'autres choses, encore plus qu'on ne sait pas encore, ben, c'est peut-être parce qu'on connaît pas tout. C'est peut-être parce qu'on devrait être moins orgueilleux aujourd'hui sur les choses qu'on pense savoir. Mais l'homme est orgueilleux et l'homme se fie sur lui-même. Mais Dieu appelle le malheur. Pourquoi ? Parce qu'on se fie sur ce qui ne marche pas. Dieu utilise l'expression dans Ésaïe de s'appuyer sur un roseau cassé. Non seulement ça ne marche pas, mais ça perce la main. Un roseau cassé, on ne s'appuie pas dessus. Malheur à l'homme. Donc maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Pourquoi ? Parce que, comme on va voir tout à l'heure, le cœur est tortueux. Le cœur n'est pas honnête. Le cœur, il prend des détours, il se donne des excuses. Il trouve toujours une raison pour aller chercher à avoir le dernier mot avec Dieu. Oui, mais. Au lieu de dire, bouche cousue, je ferme la bouche. Vous savez, ça, c'est juste ce que Dieu veut qu'on en vienne. Pas simplement fermer la bouche et dire, ok Dieu, tu as raison. Pas d'excuses, j'ai pas d'autres mots, je. C'est le but de la loi qu'on puisse se taire et dire, ok Dieu, je suis coupable. Afin que tout le monde soit reconnu coupable, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. On a tendance à toujours trouver une excuse. Comme Adam disait, oh mais c'est la femme que tu m'as donnée. Enfin, c'est pas faux, Dieu. La femme a dit, ouais mais c'est le serpent qui m'a séduit. Ouais mais certainement, Satan avait une part. Certainement la femme avait une part parce qu'elle a donné ça à l'homme. Mais l'homme, en fin de compte, était responsable. La femme était responsable pour son propre péché. Et Satan, on va être jugé éternellement pour sa propre rébellion contre Dieu et son désir de détruire les œuvres de Dieu et de corrompre les humains. Chacun va prendre sa part, et Dieu connaît la part, parce que Dieu connaît. Il donne une illustration. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Là, apparemment que là, ça fait référence à un genre de plante, un genre d'arbre, qui, quand elle n'a pas d'eau, ben, elle devient toute asséchée, tout ça, et c'est très malheureux dans le désert de voir cet arbre-là qui manque d'eau. Mais que ça réfère à un arbre, ou que ça réfère à nous-mêmes dans le désert sans eau, ben, vous comprenez l'idée. On peut faire un certain temps, mais la bouche se dessèche, et là on commence à manquer d'eau. La tête commence à nous faire mal. Le soleil nous tombe dessus. Mais, si l'homme n'est pas un bon objet de confiance, Dieu l'est lui. Heureux l'homme, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Placer sa confiance en Dieu. Béni, heureux. L'homme, là c'est laissé générique, là c'est humain, c'est pas du tout dans le sens le mâle qui fait ça, certainement ça s'applique, mais la femelle aussi, la dame aussi qui fait ça, c'est l'humain. Heureux toute personne qui se confie dans l'Éternel. Dieu lui il connaît tout, le début à la fin, c'est lui qui a tout créé, il est tout puissant, il connaît nos cœurs, il connaît nos paroles même avant qu'on les dise, il connaît tout de nous. Il est digne de confiance. Dieu ne ment jamais. Dieu ne trompe jamais. Il ne peut pas être séduit par aucune tentation parce qu'il n'a rien en lui qui est tentable dans ce sens-là, comme Jacques nous dit. Dieu est digne de confiance. Pourquoi est-ce qu'on ne lui fait pas confiance? Non seulement il est digne de confiance, mais il est bon. Ça vaut la peine. Celui qui se confie en Dieu, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Dans la nuit, la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Vous savez, en Moyen-Orient, en Israël, ce n'était pas comme ici, en Guyane, puisque même la saison sèche, c'est rare qu'un arbre meure. Hein? Peut-être si on plante un nouvel arbre, là il y a 2-3 mois, là peut-être il va avoir de la misère. Mais un arbre, parce qu'il y a tellement d'eau dans le souterrain, ça prend longtemps à descendre très très bas, même avec 2-3 mois de saison sèche. Mais là, dans cette place-là, là, c'était... il y avait des temps de sécheresse, des temps très secs, et c'était bien d'être un arbre planté près d'un courant d'eau. Là, il n'y avait pas de changement pour cet arbre-là. Il y avait toujours de l'eau, il y avait toujours la saison fertile, il y avait toujours des fruits en sa saison, etc. Et Dieu est comme ça. Dieu, il est digne qu'on lui fasse confiance. Mais attendez la fin de l'histoire. Parce que dans le reste du chapitre, on va voir que parfois ça va sembler prometteur de pécher. Et c'est seulement après coup, plus tard, que là, on réalise ça ne marche pas. Mais souvent au début, ça semble marcher. Souvent au début, ça semble marcher faire à sa propre tête. Souvent, ça semble prometteur. Et inversement, on va voir dans le reste du chapitre qu'au départ, parfois, ça semble vraiment pas marcher de mettre sa confiance en Dieu. Rien ne change. On reste toujours la risée du peuple. Mais ça semble pas marcher. Et ce qu'on dit, on avertit les gens. Et en fin de compte, ça ne s'accomplit pas encore. Puis les gens se demandent pourquoi est-ce qu'on a dit ça au nom de Dieu, parce que ça n'arrive pas. Mais encore là, attendons. Parce qu'à la fin, la confiance en Dieu va se montrer comme étant valable, comme étant digne de le faire, parce que ça arrive comme c'est dit. Donc, la foi en Dieu, justement, elle va être testée. La foi, justement, en Dieu, de se confier en Dieu, c'est de le faire par principe. Pas juste parce que ça marche et ça semble marcher tout de suite. Oui, la promesse est donnée. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines. Oui, la promesse est donnée, mais la promesse est pour le long terme. Dans l'immédiat, la foi, la nature de la foi, on doit le faire quand ça semble pas marcher. Par principe, la confiance même est cela. Que malgré les circonstances dans lesquelles on est, on lui fait confiance. Et on va agir selon ses principes, pas selon ce qui semble marcher ou non dans les circonstances, mais selon ce qu'il nous dit de faire, parce qu'on se confie que lui, il sait ce qu'il nous dit de faire, et il sait quelle va être la fin. Alors n'oublions pas cela. Dans justement le développement du chapitre, il montre que la nature de la foi, ce n'est pas simplement vivre par la vue. Dieu, si tu me bénis aujourd'hui, alors je vais te faire confiance aujourd'hui. Je vais faire des choses qui font que mes circonstances changent immédiatement. Non, ce n'est pas la foi. La foi, Dieu lui demande de lui faire confiance. Dieu nous demande de lui faire confiance malgré les circonstances qui semblent adverses. Et donc, au verset 9, il nous rappelle « Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. » Qui peut le connaître ? Aveugle et malhonnête. Vous savez, le monde pense que l'homme est foncièrement bon. Oui, le monde va reconnaître qu'il y a du mauvais en nous et dans le monde. Mais le monde est capable de le mettre de côté. Je ne sais pas si vous avez suivi toute l'histoire avec Rihanna et toute cette triste histoire. Et là, la société française, là, il dit « Ah, la justice n'a pas été au rendez-vous !» Il dit ça parce qu'il pense que l'homme est capable de se relever et faire justice et de faire ce qui est bien et tout ça. Il y a du bien dans l'homme. Là, Dieu non seulement condamne l'expression très mauvaise de convoitise et de méchanceté que cet homme qui apparemment a fait cela, bon, ce n'a pas été prouvé encore, mais toute l'évidence ça pointe vers là. Oui, c'est grave, et Dieu haït ça, et justement, Dieu a une solution pour le problème à la racine, sa convoitise, son égoïsme. Plutôt que de le laisser grandir jusqu'à vouloir abuser de jeunes enfants et de les tuer après s'en être servi, Dieu veut que ce genre de convoitise, qu'on le reconnaisse, cette méchanceté, cette malhonnêteté, cette hypocrisie de sembler comme une bonne personne dans la société, de faire ça en cachette. Ça, c'est pas juste cette histoire-là. Pas comme une histoire en Guyane. Les gens font les choses en cachette parce qu'ils veulent tromper. Ils veulent satisfaire les besoins et leurs propres convoitises. Mais Dieu veut autant que ceux qui décrivent telle action voient que dans eux-mêmes, ils ont les mêmes racines de problèmes. Le cœur est tortueux, par-dessus tout, et il est méchant. Et quand le cœur humain dit « Ah, telle personne qui a fait telle chose, c'est un monstre, ah !» Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne fais pas de ça. Je ne tuerai pas quelqu'un comme ça, là, c'est grave. Et ceux qui font ça, ils cachent l'orgueil, ils cachent la malhonnêteté, parce que là, ils s'offusquent une situation, mais eux-mêmes ont un cœur tortueux et méchant. Dieu veut qu'on dise, ok, oui, c'est terrible une telle chose, mais d'avouer que, oh ouais, moi aussi, j'ai les semences pour faire une telle chose. Mon cœur aussi est si méchant naturellement, et si tortueux, il est malhonnête, il va... On ne peut pas être honnête dans les situations. Mais quand on est malhonnête dans les situations, on cache la méchanceté. Parce qu'on n'a pas à cœur la personne. On a à cœur nos propres convoitises et ce que nous on désire. C'est la même nature. Le cœur est tortueux par-dessus et il est méchant. Qui peut le connaître? Nous, on ne se connaît même pas soi-même. Vous savez, on se voit dans un miroir, et là c'est comme on a corrigé. On a un app dans notre tête, un app qui change ce qu'on voit automatiquement. Hein, on a tous des apps peut-être pas, moi je n'aime pas, peut-être que d'autres n'ont pas non plus, mais c'est assez commun d'avoir des apps que là tu prends une photo et ça change. Et ça change, tu prends un selfie, puis là ça te change, ça enlève les petits problèmes, tout ça là. Hein? Vous savez qu'il y a des apps comme ça. Ben, on a tous cette tape-là dans le cœur. On se voit, ça nous autocorrige. Ah, là, on se sent pas si mal. On se connaît vraiment pas. Mais Dieu nous connaît, lui. Et Dieu connaît que le cœur est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Dis-moi, Dieu, le sonde. Moi, je sonde des cœurs. Et vous savez, l'orgueil, la perversité, la méchanceté, la malhonnêteté, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Un peu comme la tendance, nous, au club d'enfants, parfois on donne un bonbon à la fin, etc. Et souvent, là, on a les traces où les enfants ont été, parce qu'on trouve les papiers derrière eux. On leur dit, jetez pas les papiers à terre, ça va dans les poubelles. Mais vous savez, l'orgueil, la méchanceté, tout ça, ça laisse des traces derrière nous. Les blessures. Nous-mêmes, on a subi les blessures des gens autour de nous qui sont orgueilleux, malhonnêtes, tout ça. Et là, on s'offusque de ça, mais nous, est-ce qu'on a regardé derrière nous les blessures qu'on a laissées derrière nous? Les paroles blessantes, l'orgueil, la méchanceté, etc. C'est pour ça que Dieu dit, je sonde les reins, j'éprouve le cœur pour rendre à chacun selon ses voies. Dieu lui remarque tout, et Dieu haït le mal, Dieu haït le péché. Et c'est là, au verset 11, qu'il dit, comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Et nous tous poursuivons une voie qui semble prometteur pour s'adonner au penchant de nos propres cœurs. Hier, j'ai été faire une petite commission, et j'ai vu qu'un monsieur, il mettait sur sa mobilette deux gros cartons pleins de bouteilles de bière. Oh, j'ai dit, monsieur, je partage ça, ce que Jésus a fait pour moi, puis aussi, c'est du poison, ça, monsieur. C'est du poison. Je le dis avec amour, mais je le dis parce que c'est du poison. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Oh, c'est pas pour moi. Je le vends. Je le vends. Moi, je bois pas, moi. Mais j'ai dit, monsieur, c'est pas mieux, vous vendez du poison aux gens. C'est pas mieux. Bah, il faut bien gagner sa vie. Il faut bien gagner sa vie. J'ai dit, monsieur, alors c'est l'amour de l'argent. Vous cherchez à vendre du poison aux gens. Vous gagnez votre argent, ça c'est... Ah, l'argent mal gagné. Mais même si on travaillerait dans un travail honnête, tout ça, l'illustration fait justement que ce monde, on s'avance, on regarde au penchant de notre mauvais cœur, et c'est pas par les choses honnêtes qu'on se donne, ça donne au penchant de nos mauvais cœurs. Hein. On s'avantage ici, on s'avantage là, on fait ici, et ça semble marcher parfois. Ça semble parfois marcher. Hein. Combien j'en ai vu des gens qui rient parce que là, ils coupent la file. J'ai réussi, puis la personne me sert pareil, puis là ils s'en vont, ils ont été servis d'avance, puis tout ça, puis les autres ils sont un peu dégoûtés de la chose, mais lui il rit parce que ah, ça a marché, puis il rit. Vous savez, quand j'étais en Inde pour 3 mois il y a longtemps, pour aider à enseigner des classes dans une école biblique et prêcher, etc., là leur système de conduite est bien différent. Là, ils n'ont pas de miroir, eux autres. Il faut qu'ils regardent devant constamment, parce qu'on ne s'occupe pas de ce qui est en arrière, on regarde devant ce que nous, on veut aller. Alors, s'il y a quelqu'un devant nous, allez, on s'écarte pour le passer. La personne derrière nous, c'est à lui d'être prêt à sauter du chemin, parce que nous, on va prendre ça. C'est tout un système quasiment basé sur moi. Moi, je veux être à la place, moi, je veux être à la place à l'autre en arrière de se déplacer si moi, je veux aller à la place. Et le système est comme ça. Ils n'ont pas de miroir sur le devant. Moi, je n'ai pas conduit là. Ils m'ont dit non, il faut connaître le système. Il y a des chauffeurs qui se donnent à ça. Et vous savez, dans ce temps-là, il y en a qui sont très braves parce qu'ils ont des voitures puissantes. Ils peuvent dépasser comme ils veulent. Alors, ils sortent comme ils veulent, les là. Puis tout le monde derrière eux, il faut qu'ils évitent l'accident. Ça fait une chaîne de réaction, hein, parce que là, quelqu'un sort, là, tu sors, l'autre derrière, il va arrêter de changer. C'est pour ça que tu n'as pas le temps. C'est dangereux de conduire en cherchant à regarder derrière toi, parce qu'en une seconde, la personne devant a changé de parcours, puis là, l'accident. C'est pour ça qu'il faut rester fixé devant, puis quasiment. Alors, dans ce temps-là, sur des grandes routes, il y a un peu de n'importe quoi. Il y a les chariots qui arrivent par une bâche, il y a les gens qui marchent, il y a les mobilettes et les cyclistes, il y a des voitures qui... et il y a des Mercedes qui sont très vite, il y a de tout. Et là, les gens qui ont les grosses voitures qui peuvent aller vite, ah voilà, ben ils en profitent. Et s'il y a quelqu'un dans leur chemin, ils continuent à avancer jusqu'à ce que l'autre se tasse. Et là, ils rient parce que l'autre s'est passé le bon chemin. Alors là, il peut vraiment foncer, parce qu'il force les gens à sortir de son chemin. Je ne sais pas si vous voyez venir la chose. Parce que ce genre de personnes, il y en a. Jusqu'à ce qu'on rencontre une autre personne comme ça. Et là-bas, parfois, il y a des chocs de face à face, là, fou. Parce que les deux étaient tellement bornés à dire « L'autre va se tasser de mon chemin, moi je passe, je suis plus important. » Et juste, ça marche tant que les gens finissent par s'abaisser et nous laisser passer. Mais à un moment donné, on trouve notre père. Et on trouve quelqu'un qui est autant borné que nous, qui est autant orgueilleux que nous, puis égoïste que nous, puis paf! Et c'est assez courant qu'il y a de ces graves accidents, parce qu'il y a deux fous qui se prenaient pour le roi du monde, qui disaient « Tout le monde doit sortir de mon chemin. » Et paf, ils se rencontrent. Face à face, les deux sont morts. Et Dieu nous dit comme ça que tel est celui qui acquiert des richesses injustement au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin il n'est qu'un insensé. Dieu nous a averti dans Nombre que « Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. » Nous, on n'est peut-être pas à ce niveau d'orgueil. Je suis vraiment, vraiment élevé comme ça, hein. Mais ça ne prend pas un orgueil ici avec ça pour essayer de quand même profiter du système, puis faire qu'on s'avantage un peu plus que l'autre, etc. Et dans notre orgueil, on se pense une bonne personne, mais n'empêche que le cœur humain il cherche à suivre les penchants de son mauvais cœur d'une façon malhonnête et méchante.
Et Dieu connaît, Dieu voit tout ça. Et il avertit tout le monde, ça ne marche pas en bout de ligne. Ça semble marcher pour un temps. Et quand on s'avantage pour suivre les penchants de nos cœurs, puis ça semble marcher, puis ça, là on s'en réjouit parce qu'on a pu s'en donner du cœur joyeux à nos convoitises, à ce qu'on voulait, à nos préférences, puis s'en donner à ce que nous on aime, même si le frère n'était peut-être pas aussi. Et on se donne des raisons, comme le monsieur qui dit ben, il faut bien gagner sa vie. C'est pour ça que je prends la bière, parce que c'est ce qu'il vend. Il faut bien que. Ah, il semble qu'il n'est pas honnête. Et Dieu avertit que ces choses-là, oui, ça semble marcher pour un temps. Mais comme le perdri qui couvre les yeux d'un autre, puis ensuite ça finit pas, ça ne marche pas. Dieu nous montre beaucoup d'illustrations dans la nature, qu'en fin de compte, ça finit à rattraper. Et Dieu nous avertit, sachez que votre péché vous atteindra. Là, Jérémie, il s'écrit, il est un trône de gloire élevé dès le commencement, verset 12, c'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël au Éternel. Et Jérémie s'exclame de vraiment que Dieu est celui qui est digne de confiance, qu'il est un Dieu glorieux. Puis en plus, il s'est révélé à Israël, à Juda, il a fait construire son temple là, il a donné sa parole. Mais qu'est-ce que son peuple a fait avec tout ça? Oui, ils aiment leur temple, comme on l'a parlé au chapitre 6, si je me rappelle bien au chapitre 6. Ah oui, le temple, oui. Mais c'était quand même pour bonheur. Ce n'était pas dans ce contexte-là de vraiment le plus chercher de tout leur cœur et de lui faire confiance. Ils ont fait comme au verset 13, « Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive. » Vous savez où ce qu'il faut qu'on ait notre nom écrit dans le livre de vie? Si nos noms sont écrits sur la terre, ça ne dure pas. Vous savez, avec la femme qui a été accusée d'adultère, et là c'était malhonnête parce que les gens qui ont emmené cette femme-là, ils ont emmené le monsieur aussi. Elle a été trouvée en pleine activité. Alors ils avaient le monsieur aussi, mais non, on va juste prendre la femme. C'est malhonnête. Mais Jésus, il n'a pas tombé pour leur panneau. Parce que là, ils ont dit, qu'est-ce que dit la loi? Est-ce qu'on devrait lapider une telle femme? Et vous savez, dans Jean, c'est dit, il est écrivé sur la terre. Comme pour dire, il est laissé réfléchir un peu à ce qu'il faisait. Puis il était assis quelque part. Puis, avez-vous déjà fait ça? Là, on écrit un peu, on se mue dans la terre. Là, on écrit des choses. Alors, il dit que le premier qui est sans péché lance, que le celui qui est sans péché lance la première pierre. Puis se remet à écrire tranquillement dans la terre. Là, c'est dit, là, leur conscience qui rentre, ils sont péchés. Ouais, ma femme attend pour le dîner, j'ai un travail à faire, je suis celui qui pourrait lancer la première pierre, mais je pense. Et ainsi de suite, du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils sont partis. Et après que là, ça semblait un peu silencieux, et elle voit juste la femme. Et il dit, moi non plus. Mais vous savez, pensez-vous qu'on retrouverait aujourd'hui ce qu'il a écrit dans la terre? Ben non, ça fait longtemps, peut-être même la première nuit, ça a été passé par la pluie. C'est fini ça. Il n'a pas écrit là pour que ça dure. Il y a juste une chose qui dure, c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Mais ce qu'il a écrit dans la terre, ça ne dure pas. Mais c'est le point justement du verset. Avoir nos noms écrits dans la terre, ça ne dure pas. Qui sont ceux qui ont leur nom écrit dans la terre? Ceux qui ont été inscrits sur la terre, c'est ceux qui abandonnent Dieu. Ceux qui connaissent à propos de Dieu, mais qui suivent une autre voie. Son peuple qui avait toutes les promesses, qui ont continué à suivre le penchant de leur propre mauvais cœur. Et Dieu dit, ils abandonnent la source d'eau vive, l'eau vive, Jésus, l'Éternel. Ça, c'est fou. C'est fou. Aujourd'hui, nous, on a l'eau en abondance. C'est peut-être que l'eau ne nous touche pas particulièrement comme situation. Mais qui a des... Hein, on a tous un portable, on a tous des choses qui prennent l'énergie. Et on vit dans un temps où l'intelligence artificielle, puis les robots, là, ça va commencer à se multiplier, qu'on va avoir de l'aide. Hein, il y a déjà maintenant des... Il y a, non, ça fait quelques années déjà qu'il y a des comment on appelle ça, des petits robots qui font le balayage dans la maison. Okay? Je ne sais pas combien de personnes ont ça déjà en Guyane, mais c'est pas trop populaire dans notre contexte. Mais il y a, maintenant, ils ont pour couper le gazon. Hein, les machines là qui vont couper le gazon pour nous. Mais imaginez-vous donc, dans quelques années, ils vont avoir un robot super sophistiqué qui va faire tellement de choses, puis il y a une source d'énergie là qui le suit partout où il va, là, sur quatre roues avec, un fil qui le connecte. Et ce robot avec l'intelligence artificielle qu'il a là, est en fait par l'homme, ça ne sera pas super. À un moment donné, il se dit, mais moi, je suis fatigué de cette chose-là qui me suit. Cette chose-là, il m'encombre. Cette chose-là est difficile. Et il trouve des ciseaux. Et là, il dit, ah, je vais pouvoir me libérer de cette chose-là. Et après ça, on le retrouve à terre, c'est fini, parce qu'il n'y a plus d'énergie. Ah, on peut peut-être se l'imaginer, ça, bientôt. Mais ça, c'est ce que nous, on fait vis-à-vis de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné la respiration, le mouvement et l'être. Puis nous, on veut agir comme s'il n'existait pas ou comme s'il n'avait vraiment rien à dire. On se coupe de lui. Et on pense qu'on peut continuer à vivre. Alors le robot en question, peut-être que pour 5 minutes, il lui a assez d'énergie qui avait été envoyée, qui peut continuer à fonctionner, mais peu à peu, là, c'est fini. Et Dieu, il nous dit que le couper de lui, non, on ne va peut-être pas mourir tout de suite. Alors on peut s'imaginer que, ah oui, certainement. Là, c'est magnifique, on s'est coupé de cette chose-là qui nous dérangeait. Là, on est beaucoup plus libre, on peut avancer plus vite, on peut faire ce qu'on veut. Et là, ensuite, ça nous rattrape. Et là, on est à terre. C'est fini. Et c'est ça l'illustration que Dieu veut qu'on comprenne, se couper de l'eau vive. Peut-être que Dieu, dans sa grâce, fait que le moment qu'on se coupe de lui, ben, on est tous déjà coupés parce qu'on est né dans le péché. Mais le moment qu'Adam a fait ça, Dieu a fait qu'Adam continue à vivre. Parce qu'il y avait un plan de salut. Et parce que l'homme continue à vivre en tant que pécheur, il pense que c'est pas si grave le péché. Et Dieu avertit, il dit non, non, c'est grave le péché, c'est la mort éternelle, c'est juste que je le retiens pour un temps. Mais confiez-vous en moi, je suis le seul qui est digne de confiance, je suis un Dieu de gloire, un Dieu de bonté. C'est vous dans votre méchanceté que vous suivez les voies tortueuses. Et Dieu donc, il avertit de la gravité d'abandonner Dieu, la source de l'eau vive. Là ensuite, Jérémie s'adresse à Dieu. Il dit, guéris-moi éternel, je serai guéri, sauve-moi, je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, toi mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois point confus. Qu'ils tremblent et que je ne tremble pas moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie. Et là, vous vous rappelez, j'ai dit qu'on allait voir dans ce chapitre que pour Jérémie, ça ne semblait pas marcher. Jérémie avait accepté de mettre sa confiance en Dieu. Pour Jérémie, il avait accepté d'être pasteur au sens d'enseigner le peuple la parole de Dieu. Pour Jérémie, il ne s'était pas retenu, il avait dit la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne s'était pas accomplie. Les gens disent, mais tu nous avertis depuis des années, puis rien ne se passe. Jérémie, qu'est-ce que c'est que ça? Et Jérémie, il n'a pas trop de réponse. Ben, il n'a pas de réponse au sens que... Hein, tout ce que vous pouvez savoir, c'est que ça va arriver. Ouais, mais qu'est-ce qui nous prouve que ça va arriver? Dieu avertit dans sa bonté, etc. Alors Jérémie, il est mis un peu dans la confusion. Et Jérémie, encore là, on l'a vu à travers plusieurs chapitres, quand il s'exprimait à Dieu lui-même, il a grandi dans sa foi à travers tout ce temps-là. Et tout comme ça semble marcher pour le péché, et à la fin, ça prouve que ça ne marche pas. C'est le même principe, parfois quand on croit en Dieu, ça ne semble pas marcher parce que ça, les circonstances ne changent pas, mais ce n'est pas ça le point. Dieu ne nous a pas promis de nous sauver pour que les circonstances changent. Dieu nous a promis de nous sauver pour nous donner la force de vivre pour lui et d'avoir l'héritage au ciel Ça, c'est quand on aura une santé parfaite. Puis le comte de banque ne sera pas vierge au ciel, on va être sur des rues pavées d'or. C'est au ciel que tout cela va avoir son accomplissement. Ça semble, quand on fait confiance en Dieu, que les circonstances peut-être ne changent pas comme on voudrait. Et pour Jérémie, il avait cette bataille-là aussi, Dieu. Et il adresse à Dieu sa prière. « Oh Dieu, c'est moi qui sont confus, là. Eux autres, ils se moquent de moi, etc. Moi, j'ai accepté, peut-être pas confiance en toi pour partager ta parole. » Et c'est bien, il a adressé à Dieu sa prière, et Dieu l'a fortifié parce qu'il a continué à donner sa parole. Et Dieu, justement, c'est ce qu'il lui dit, verset 21. Il dit, verset 19, « Va et tiens-toi à la porte. » Jérémie, tu vas comprendre à la langue, mais là, pour l'instant, juste continue. « Va, j'ai une autre besogne pour toi. » Va à telle porte, fais-leur connaître ma parole. Et cette porte-là, dis-leur ceci. Et là, verset 21-26, il parle du jour du sabbat. Pour Dieu, c'était un symbole. Et dans l'hébreu, c'est le symbole du salut même. Le jour du repos. Et le symbole dans la loi, le jour du sabbat, ça représentait quasiment le cœur de toute la loi. Et eux, ils en ont fait fi. Le sabbat. Pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir rentrer des choses dans la ville, toutes nos récoltes, tout ça pour le vendre. Oh là, on veut pouvoir vivre samedi autant que les autres, parce qu'on avait été, nos besoins continuent. Et les gens ont fait fi de la loi de Dieu. Les gens ont fait fi de ce qui était cher à Dieu. Et dans ce passage, Dieu les appelle, prenez à cœur ce qui est cher. J'ai créé moi en 6 jours, je me suis reposé le dernier, et ce jour de repos est spécial. Ça représente quasiment le repos éternel. Il est spécial. Et les gens n'avaient pas à cœur. Mais là, on se retrouve quasiment dans un dilemme. Là, il les commande, prenez à cœur et commencez à observer la jour du sabbat et arrêtez de prendre toutes vos affaires lourdes pour passer à travers les portes de la ville pour faire votre business normal. Non, prenez à cœur le jour du sabbat pour arrêter tout ça le jour du sabbat et à la cœur à la bonne place pour moi, pour honorer et sanctifier le jour du sabbat. Pourquoi est-ce qu'il les commande? Comme si c'était ça le moyen du salut. Okay, on peut se poser cette question-là. Ça semble le moyen du salut pour eux de faire ça. S'ils faisaient ça, là, il y aurait la bénédiction, le retour de David comme roi et la bonne situation. Et pourquoi est-ce qu'ils parlent comme ça? Mettons-le dans le contexte. Dans le contexte, Dieu réfère toujours à la loi et il montre la transgression vis-à-vis de la loi et il les rappelle à leur besoin de garder la loi. Mais le Nouveau Testament nous clarifie que la loi était comme un préparateur, un précepteur, celui qui allait préparer le cœur pour réaliser, on n'est pas capable de garder la loi. Alors est-ce qu'il leur disait vraiment, gardez la loi, comme ça va bien aller pour vous? Ben, il leur disait ça, mais sachant qu'ils n'étaient pas capables. Pour qu'ils réalisent à quel point, non, nous n'est pas capable de garder le savoir réellement du cœur, vraiment par obéissance. C'est juste comme la pointe de l'iceberg, ça cache tout le reste de nos péchés aussi, mais là, ça se révèle aussi par cela. Pour que les gens réalisent qu'ils ont besoin de mettre leur confiance en Dieu, comme ça parlait au début, que Dieu allait envoyer un rédempteur pour racheter non seulement Israël de leur péché, mais aussi être la lumière du monde. Et c'est pour ça que Dieu, parfois dans l'Ancien Testament, on retrouve des passages comme ça, versets 21-26, où ça semble, 21-27, pardon, où ce que ça semble que Dieu leur disait, si vous gardez la loi, ça va bien aller pour vous. Et oui, il leur disait ça, mais Dieu savait qu'ils ne seraient pas capables de vraiment la garder cette loi-là. Mais ça avait besoin de préparer leur cœur pour leur montrer leur incapacité. Pour qu'en fin de compte, ils arrêtent de se confier en eux-mêmes, incapables qu'ils étaient, et choisir de mettre leur confiance en Dieu réellement. Et ça, c'est dans un contexte aussi de repentance, de se repentir, de la confiance en soi-même pour suivre ses propres penchants du cœur, et suivre le péché qui semble si prometteur au début, mais que la fin, c'est certain que ça ne marche pas. Pour choisir de mettre vraiment sa confiance en Dieu, qui même si ça ne semble pas marcher maintenant, bon, parce que ça ne change pas grand-chose dans nos circonstances immédiates, pas grave, on sait que ça marche, la fin va être bonne. On choisit de lui faire confiance. On choisit d'obéir à ses commandements parce qu'on croit en lui.
n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que Dieu dit dans Jérémie 17, on le retrouve aussi dans le reste de la Bible. Et Jérémie ici était quelqu'un qui avait mis sa confiance en Dieu. Il a appelé les autres à se détourner de leur propre autoconfiance et leur propre auto-poursuite de leur penchant mauvais pour vraiment suivre, croire en Dieu et le suivre. Qu'en est-il de vous? Est-ce que un jour vous avez vraiment avalé votre orgueil pour dire « Ok, c'est vrai, je reconnais, mon cœur est tortueux, plus que tout. » Et il est méchant. Et Dieu, réellement, quand il dit ça dans Jérémie 17, 9, il sait de quoi il parle et ça s'applique aussi à moi. Est-ce qu'il y a un jour où vous avez vraiment admis ça devant Dieu, dans votre propre coin tout seul, vis-à-vis de Dieu, est-ce que vous avez vraiment admis qu'il a essayé de quoi il parle, lui connaît tout. Et que là, vous avez choisi de lui mettre confiance. Parce que vous savez, vous avez déjà entendu dans le passé, Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, une fois pour toutes, par ce que lui l'a fait, une fois pour toutes. Est-ce que vous avez eu un tel vrai jour de rendre compte à Dieu réellement et d'avouer devant Dieu vraiment? Sinon, faites-le aujourd'hui même. Dieu est bon. Et si vous avez eu confiance en lui, ne soyez pas découragé par le moment, comme Jérémie l'a été ici un petit peu. Continuez à lui faire confiance. Continuez à proclamer sa parole. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole de Jérémie 17. On te prie, touchez les cœurs, si on le besoin. Moi, je ne vois pas du tout les cœurs, mais le Saint-Esprit connaît les cœurs et connaît ce que tu convies encore à la repentance et à la foi, Seigneur Dieu, en Jésus. Et ceux qui professent, Seigneur, on sait que tu veux qu'ils grandissent, et donc on te prie que tu puisses travailler dans le cœur et quiconque, toi, tu vois comme étant dans les tiens, que tu puisses les aider à grandir, à marcher réellement dans la confiance, même si ça ne semble pas marcher, mais vraiment te faire confiance par principe et t'obéir par principe, et pas selon ce qui semble marcher ou pas pour les besoins d'aujourd'hui. Seigneur, on te prie donc que tu puisses toucher les cœurs selon le besoin de chacun, au nom de Jésus. Amen.